On va reprendre avec un exposé donc, de Cordelia Schmidt sur le traitement vidéo, notamment l'utilisation des réseaux de neurones profonds. Donc, Cordelia Schmidt est directrice de recherche à l'INRIA. C'est une des stars de Vision. Elle a reçu le grand prix de l'Académie des sciences à travers tous les domaines de l'informatique l'année dernière. Et donc, merci beaucoup pour cette présentation.
Merci, merci Stéphane pour l'introduction. Donc aujourd'hui, je vais présenter des résultats à l'état de l'art sur la reconnaissance d'actions dans des vidéos. Donc pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Bon, c'est évident, on a plein de sources de vidéos aujourd'hui. Il y a de plus en plus de vidéos, donc des télé, YouTube, et évidemment aussi les gens qui prennent des vidéos eux-mêmes prennent de plus en plus des vidéos. Et donc, qu'est-ce qu'on voudra faire? Donc, on voudrait savoir, par exemple, faire la classification du clip, donc savoir quelle est l'action qui est contenue ici. Donc là, c'est répondre à un appel téléphonique, ou ici, donc, handshake. Ou alors, plus loin, par exemple, savoir quelle est vos vidéos personnelles qui contiennent des fêtes d'anniversaire, ou après, donc là, c'est un exemple un peu curieux de la compétition Trekvit Multimédia. Donc ici, c'est la veine animale. Voilà, donc. Après, c'est toutes sortes d'événements qu'on veut classifier et retrouver. Et une autre application qui prend de plus en plus d'ampleur pour la reconnaissance d'action, c'est pour les véhicules autonomes. Donc là, ce qu'on voudrait savoir, est-ce que la personne va traverser la route? Est-ce qu'elle est en train de courir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc là, ça va encore plus loin que de juste détecter et reconnaître l'action. Mais ce qu'on veut faire, c'est aussi c'est prédire quelle est l'action que la personne va prendre dans le futur. Et donc je vous montrerai un exemple récent pour ça. Et après, un dernier exemple, c'est la vidéosurveillance. Au pareil, on veut savoir, dès qu'il y a quelque chose, un comportement anormal, quelqu'un met par terre un paquet ou quelque chose comme ça, et on veut reconnaître ça. Et donc, à long terme, quel est le vrai but? C'est pas juste reconnaître des actions dans des vidéos courtes, mais on voudrait vraiment savoir quel est le contenu, par exemple, d'une vidéo. Donc, on a une vidéo d'une heure, et on veut vraiment savoir quelle est l'histoire qui se déroule, donc avoir le même mécanisme de compréhension, qu'est-ce qui se passe sur la vidéo qu'un humain. Donc, si vous regardez une vidéo, vous pouvez très bien dire qu'est-ce qui se passe. Donc là, head waiter takes them to the table, they pass by the piano, the woman licks exam, Samuel quenches and first keeps his eyes. Donc, on veut vraiment savoir quel est le contenu? Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on sait reconnaître quelques actions, quelques personnages, quelques activités, mais on ne sait pas vraiment transcrire un contenu complet d'une vidéo. Donc ce qu'on sait faire pour les images, on arrive à faire à peu près des captions. Donc on a des mécanismes pour trouver le contenu des images et les décrire. Mais pour la vidéo, avec les aspects temporels et la complexité des interactions, on n'arrive pas encore aujourd'hui. Donc là, pour faire ça, il faudra vraiment savoir quelles sont les interactions dans la vidéo. Et donc, pourquoi c'est aussi compliqué, la reconnaissance d'action? Donc, on peut avoir des variations en apparence qui sont encore plus significatives que pour les images. Donc, on peut avoir des changements de point de vue. Donc là, dans les deux cas, deux personnes sont en train de manger. Donc là, ça explique en partie pourquoi les approches avec réseau profond marche très bien parce qu'ils ont une capacité de mémoriser plein d'exemples différents, apprendre plein de concepts différents pour un même label. Après, donc là, un autre exemple, donc c'est la variabilité interclasse. Donc on a deux exemples pour manger. Donc le premier exemple, c'est un singe qui mange, et l'autre, c'est vraiment une scène classique de repas. Et après, donc dans le cas des actions, on a aussi les changements de point de vue de caméra. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut stabiliser, donc les algorithmes de stabilisation qui marchent, et donc on peut factoriser ça. Et donc deux autres points difficiles, c'est les données d'apprentissage. Donc aujourd'hui, on a des larges corpus de données d'apprentissage pour les catégories d'objets. Donc ça, c'est assez simple, parce qu'on sait, vous avez par exemple WordNet, où vous pouvez définir quelles sont les différentes catégories d'objets. Par contre, pour les actions, c'est beaucoup plus difficile de définir un vocabulaire, de dire quelles sont vraiment les actions, comment on les compose ensemble. Et après, donc, c'est encore plus difficile d'avoir des données d'apprentissage de façon supervisée. Donc là, à la fin, je vous montre un exemple récent qu'on a défini quelques actions basiques et on peut, à partir de ça, composer des actions plus complexes. Mais en beaucoup de cas, les objets et les interactions jouent un rôle. Donc, pour vraiment avoir des annotations de tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que pour les objets. Et donc, en ce qui concerne les approches, donc il y a des gens qui travaillent sur la reconnaissance d'actions dans des images. Donc, même si vous n'avez pas une vidéo, juste une image, vous pouvez déjà dire, approximativement, vous pouvez dire que là, quelqu'un joue du violon, par exemple. Donc, ça, c'était. C'est un exemple du Pascal, lui aussi. Et la 7, qui était une compétition, et donc plus récemment, il y a Vicoco, pareil. Donc, dans les images, les gens ont annoté l'acteur et l'objet. Et donc, ça, ça marche si l'action n'est pas trop complexe, et à partir de la pose et l'objet, vous pouvez dire qu'est-ce qui fait la personne. Donc là, vous voyez la personne, vous voyez le donut, c'est assez clair qu'elle mange. Donc, ça, donc là, c'est une approche qui base aussi sur des réseaux. Donc, on a une branche qui détecte l'objet, une branche qui classifie la pose de l'humain, et là, une branche qui mesure les interactions. Donc, ça marche bien, mais évidemment, si le mouvement est un tout petit peu plus compliqué, ou si vous avez des corrélations dans le temps, comme par exemple ici, est-ce que la personne ouvre ou ferme la porte, c'est pas clair à partir d'une seule image. Donc là, vous avez besoin du mouvement. Et aussi, donc deuxième point, pourquoi du mouvement? Parce que finalement, si vous n'avez que du mouvement, donc ça c'est une expérience de Gunnar Johansson qui était faite il y a très longtemps, où il avait mis des light bulbs sur les joints. Et donc juste à partir de cette image-là, vous pouvez très bien dire de quoi il s'agit. Donc juste avec le mouvement, vous pouvez avoir une idée très précise que c'est un humain qui marche. Vous pouvez faire la différence entre marcher et courir, entre une femme et un homme en fonction de layout des points. Vous pouvez aussi déterminer qu'est-ce qui se passe. Donc ça, enfin, c'était les premiers essais pour montrer que vraiment le mouvement, c'est quelque chose complémentaire pour reconnaître l'action. Et donc là, je vais commencer ma présentation par un overview sur ce qui est le flow optique. Donc le flow optique, ça mesure comment le mouvement localement se comporte. Donc le flow optique, ce que ça fait, ça projette le mouvement de la scène 3D dans l'image. Donc vous avez un mouvement en 3D et le vecteur du flow optique vous dit comment se comporte l'objet en 3D, en 2D. D'accord ? Donc ça vous donne une idée, une mesure du mouvement. Et donc le flow optique, c'est par définition le mouvement apparent des pixels dans l'image, donc entre deux images. Et donc ça ne correspond pas complètement au motion field parce que vous pouvez avoir un mouvement apparent dans l'image qui est causé par exemple par des changements de luminosité sans mouvement actuel. Par exemple, si vous avez une sphère qui change d'orientation sur des luminosités différentes. Mais bon, en pratique, ça mesure quand même dans beaucoup de cas le mouvement de l'objet. Donc si vous avez un humain qui bouge, vous avez les mains qui vont suivre le flow optique, donc vous avez le flow optique qui vous mesure le mouvement. Et donc beaucoup de techniques, ce qu'ils utilisent, c'est qu'ils utilisent une composition des caractéristiques extraites du flow optique et des caractéristiques extraites de l'apparence. Donc juste ici, une petite définition. Donc ce que vous avez deux images consécutives dans la vidéo, donc T-1 et T. Et donc, comme c'est un flux continu d'images qui sont prises dans le temps, donc vous avez par exemple souvent 25 frames par seconde, le mouvement entre les deux images reste petit. Donc là, vous avez le mouvement, les vecteurs de mouvement entre l'image T-1 et T. Et donc, le mouvement reste petit. Et donc, beaucoup d'algorithmes d'estimation de flow optique opèrent sur le fait sur trois hypothèses de base. Donc, brightness constancy, ça veut dire que le point entre T-1 et T ne change pas de luminosité. Le mouvement est petit, parce que c'est des frames qui sont très rapprochés. Et spatial coherence, ça veut dire que les points dans un voisinage ne changent pas trop. Donc, dans le voisinage, le mouvement est le même. Ce qui n'est pas vrai si vous avez par exemple un contour, que là, il y a un changement abrupt. Donc là, je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails, mais donc, il y a une très vaste littérature sur tout ce qui est estimation du flow optique, qu'ils ont tous pris comme hypothèse de base, the brightness constancy assumption, donc ce qui vous permet de formaliser que le changement entre deux images. Il y a la luminosité qui reste constante. Et donc après, il y a Lucas Kainat, une des premiers, qui ont ajouté le fait qu'il y a la correction spatiale pour pouvoir résoudre ces équations. Après, il y a beaucoup de gens qui regardaient ça comme un problème de résolution d'équations de dérivées partielles en ajoutant une contrainte de régularisation. Et après, plus récemment, les gens se sont rendus compte que tout ça, ça marchait bien s'il y a des changements petits entre les deux frames, mais s'il y a un changement grand, par exemple quelqu'un qui bat avec une raquette de tennis, il faudra quelque chose d'autre. Et donc, ils ont ajouté des termes basés sur du matching de features. Donc ça, c'était des approches de proximalique qui ont montré que même si vous avez des grands changements, ça marche toujours bien. Et donc, tout ça, c'est ce qui existait. Donc aujourd'hui, de façon très surprenante, je dirais, si on regarde toute cette littérature, finalement, les approches basées sur le deep CNN donnent des résultats comparables et même meilleurs. Et pour des temps de calcul qui sont dans beaucoup de cas de plus en plus raisonnables. Donc ça, c'est, enfin, je pense que c'est quelque chose d'assez surprenant que ça marche aussi bien avec des techniques tellement, enfin, pas simples, mais avec des réseaux profonds, en fait. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose qui est assez récent, ça date il y a 2-3 ans, et ça m'a vraiment, enfin, personnellement, ça m'a surpris, parce que finalement, c'est un problème qui est très bien posé, avec des équations très jolies, et finalement, avec des réseaux profonds, on comprend pas vraiment ce que ça fait, ça donne des résultats comparables aux meilleurs. Et donc le premier qui a fait ça, donc ça date d'il y a 3 ans, c'était l'équipe de Prox, c'est fait Alex Dostoyevsky. Et donc ce qu'ils prennent en input, 2 images, ils ont un réseau convolutionnel, j'expliquerai un peu en détail, et sort le flow optique. Donc là ce que vous voyez, c'est l'encodage du flow optique avec les couleurs, donc la couleur ça donne l'orientation, la magnitude ça donne la force du flow optique. Et donc là, quelle est l'architecture? Je ne sais pas si vous avez vu dans votre cours déjà les différents types d'architecture, mais donc là, ce qu'on a comme architecture, c'est une architecture style U-Net. Donc ce que vous faites, vous avez des convolutions avec des supports de plus en plus larges. Donc là, c'est des 3x3, vous faites des subsampling. Donc à la fin, vous avez un vecteur qui encode pas seulement le flow optique local, mais le flow optique avec tout son contexte. Donc ça, c'est une approche qui marche très bien pour tout ce qui est flow optique, pour tout ce qui est segmentation. Donc vous avez des convolutions locales qui regardent localement ce qui se passe, et avec le downsampling, vous avez une fenêtre qui regarde de plus en plus le contexte autour. Et donc là, à la fin, vous avez cette représentation. Évidemment, là, ça ne suffit pas. Donc ce que vous faites, donc ça c'est le U-Net, vous faites un upsampling, donc vous faites la convolution à l'inverse. Donc là, c'est le truc là, et donc après vous remontez dans la chaîne en prenant l'information d'ici et l'information de ce niveau là pour combiner et pour regarder à la fois qu'est-ce qui s'est passé là, donc ici quel est le contexte et qu'est-ce qui s'est passé localement à ce niveau là. D'accord, donc vous remontez, vous avez ici toute l'information du contexte et vous remontez cette information, c'est un peu comme les approches multi-échelles. Donc les approches multi-échelles, vous regardez de plus en plus hautement et après vous redescendez. Donc c'est exactement la même chose, vous avez un truc bottom-up et top-down. Okay, et donc là, à la fin, vous avez des labels pour chaque pixel. Donc pour chaque pixel, vous avez une prédiction de la magnitude et la direction de le flow optique. Et donc ce type de réseau, c'est aussi utilisé pour la segmentation, donc très similaire. Vous le regardez localement ce qui se passe au niveau d'un pixel, et après vous regardez le contexte, et après vous raffinez. Et après, donc, ce qui est intéressant pour le flow optique, évidemment, vous ne pouvez pas l'annoter manuellement. Donc ce que vous avez pour chaque pixel dans l'image, vous avez une information où il bouge, et donc ce n'est pas possible de l'annoter manuellement. Donc finalement, ce qu'ils ont fait, les gens, ils ont construit tout un tas de données synthétiques. Et donc là, pour cette approche-là, si vous voyez ça, vous dites, enfin, c'est un peu du n'importe quoi, il y a des chaises qui se promènent sur un fond, donc c'est vraiment, enfin, on dirait que ce n'est pas réaliste. Par contre, ce que vous voyez quand même, bon, là, il y a le flow optique, donc le fond, il n'y a pas de flow optique, et là, il y a des objets qui ont un flow optique. Donc effectivement, on pourrait dire qu'à partir de ça, on peut peut-être apprendre le flow optique. Et donc effectivement, donc, je n'ai pas sorti des chiffres, si vous regardez le papier, vous pouvez voir que cette approche-là donne des performances comparables à l'état de l'art. Donc vraiment juste à partir de ces choses-là, simples, ça marche déjà bien. Et donc depuis, les gens ont regardé des architectures différentes pour améliorer la performance. Donc là, c'est un réseau un peu plus compliqué. Et ils ont regardé des données synthétiques aussi plus performantes. Donc là, si vous regardez là, c'est des fonds 3D avec des objets 3D qui bougent devant. Donc c'est beaucoup plus réaliste que les chaises qui se déplacent sur des fonds non 3D. Et donc là, ce que vous pouvez montrer, c'est que ça améliore la performance. Donc d'avoir ces données synthétiques qui sont meilleures et des réseaux meilleurs. Donc finalement, la question, ça continue, la question c'est plus comment générer les données d'apprentissage réalistes et après comment dessiner les réseaux de façon un peu plus performante. Et donc là, avec cette approche-là, ils sont actuellement battus les tailles de l'art. Donc là, ils sont vraiment meilleurs que les méthodes de la taille de l'art. Et donc, enfin, là, c'est encore, on peut encore dire, c'est plus long que l'état de l'art, mais finalement, récemment, les gens se sont montrés que par les méthodes de distillation, ils peuvent approximer ça avec des réseaux plus légers, et donc ça marche même en temps réel. Et après, voilà, vous avez tous les mécanismes, je ne sais pas si vous avez vu dans votre cours, pour faire du fine-tuning sur des données réelles. Donc, une fois que vous avez estimé ça, vous pouvez améliorer la performance encore plus en utilisant des séquences, par exemple le self-driving car, où vous avez le flow optique, et utiliser ça pour fine-tuner les résultats. Donc une fois que vous avez ça comme base, vous pouvez avoir tout ce mécanisme, soit donc avec des données annotées, soit de façon non-supervisée, en mesurant juste la différence entre input-output, et aussi utiliser ça pour le fine-tuning. Donc là, je skip, je montre juste là les résultats. Donc ça, c'est le résultat du FlowNet 2, donc actuellement un algorithme de l'état de l'art. Là, vous voyez la ground truth. Donc là, il y a une personne qui bouge. Le fond, il est 3D, donc avec les changements de point de vue de la caméra, il change aussi un peu. Et que vous pouvez voir que ça, c'est vraiment, enfin, nettement mieux que ce qu'ils pouvaient faire les algorithmes de l'état de l'art. Donc pareil ici, enfin, les difficultés, vous voyez bien, c'est vraiment segmenter précisément les personnes qui sont petites, les objets qui sont petits. Et là, donc là, il y a une des erreurs aussi. Mais bon, vous voyez que ça marche vraiment mieux. Donc, vous pouvez vraiment voir à l'œil que ça marche mieux que des tas de l'art. Et donc, en conclusion, aujourd'hui, on peut apprendre le flow optique à partir de données synthétiques et de réseaux neuronaux. Et ça donne des performances excellentes. Et donc là, ce que je disais tout à l'heure, les gens sur ce qu'ils travaillent aujourd'hui, c'est comment réduire la taille des réseaux, donc pour rendre ça plus rapide, parce que finalement, si vous voulez extraire les flots optiques, vous ne voulez pas attendre des années et des années. Et donc là, il y a plusieurs approches pour avoir des réseaux plus légers. Et après, de façon assez surprenante, les gens sont même mis à prédire le flot optique à partir des données, avec des images statiques, parce qu'en regardant la configuration de l'image statique, vous pouvez prédire le flot optique en matchant des paires d'images. Donc ça marche évidemment uniquement pour des cas similaires. Donc comme toujours, les réseaux, ils sont limités à ce qu'ils ont vu. Donc si vous changez complètement du contexte, ça ne marcherait plus. Mais c'est assez surprenant qu'on arrive à faire ça. Et donc dernière chose, je n'ai pas de slides, mais ce qu'on a fait nous récemment, donc pour simuler la performance du flow optique, vous pouvez en plus utiliser des mécanismes de distillation, d'apprendre les performances et copier la performance du réseau pour même plus avoir à extraire le flow optique, mais simuler ça de façon automatique par un réseau. Donc voilà, donc ça c'est le flow optique. Et donc après, pourquoi on veut faire ça? Donc le flow optique, ça peut servir pour beaucoup d'applications, ça peut servir pour les panoramas, pour la stabilisation, pour la reconstruction 3D, mais aussi pour la classification de vidéo. Et donc, la classification de vidéo, donc une tâche, c'est vous avez un clip donné et vous voulez savoir quelle est l'action que la personne entreprend dans cette vidéo. Donc, par exemple, ici, making sandwich is present, feeding animal is not present. Ou de façon plus en détail, ce qu'on voudrait vraiment faire à long terme, de savoir à quel moment dans la vidéo, quelle personne performe quelle action. Donc, vous pouvez avoir plusieurs personnes dans la vidéo et donc vous voulez savoir quelle personne, où est la personne localisée précisément et quelle action entreprend la vidéo. Et ça, c'est par exemple, si vous pensez à l'exemple de la voiture autonome, c'est très important. Dans un cas de voiture autonome, vous voulez vraiment savoir où se trouve la personne et quelle est la personne qui va traverser la rue, ou est-ce que c'est un enfant ou pas. Et donc, juste pour donner un état de l'art, donc, enfin, les premiers résultats c'était obtenu par des space-time interest points. Après, dense trajectories, on replaçait ça. Et donc, plus récemment, pareil, il y a des video level CNN features. Et donc, juste pour donner une idée, donc, quelle est l'idée des space-time interest points? Donc là, l'idée, ce qu'on voulait, c'est extraire. Donc ça, c'est la matrice de autocorrélation en 3D. Donc ce qu'on veut trouver, des endroits dans la vidéo où les objets bougent en espace et en temps. Donc ça, c'est des, par exemple le ballon de foot, ici, c'est un très bon exemple. Vous avez le ballon qui se déplace en 2D et en 3D. D'accord ? Donc on veut vraiment avoir des déplacements 2D, 3D. Et donc ça, c'est l'extension des points d'intérêt. Qui, les points d'intérêt, c'est des caractéristiques en 2D ou un changement signal fort en 2D. Et donc là, ça, c'est une extension en 3D. Donc on a ces points en 3D qui permettent de capturer, en quelque sorte, des endroits caractéristiques dans la vidéo où il y a une action qui se passe. Et ensuite, donc, ces points 3D sont décrits par un histogramme, donc aussi en 3D, où on mesure, donc, la distribution des gradients, l'histogramme du flow. Donc là, pareil, déjà à cette époque-là, les gens utilisaient le flow pour mesurer le mouvement et l'apparence pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc l'apparence, ça sert à quelque sorte d'avoir un contexte, par exemple, que ça, c'est un pied, et le flow optique, c'est ça, mesurer le mouvement de cet objet. Et donc après, pour avoir des descriptions plus riches de la scène, donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé dans l'équipe, c'était les trajectoires. Donc les trajectoires, ça capture comment un endroit dans la vidéo, c'est comment une main change à travers le volume spatio-temporel. D'accord ? Et donc là, l'idée, c'était on avait une pyramide de flow optique, et dans cette pyramide, on suivait le flow à travers la vidéo, et ça donnait des trajectoires, donc ça donnait comment un point ici bouge à travers la vidéo. Et ensuite, on pouvait décrire ces trajectoires, utiliser des mécanismes comme des bag of features pour décrire le changement. Donc là, juste une idée. Qu'est-ce que ça mesurait, ces trajectoires? Donc ça mesurait vraiment comment évoluait la personne ou les gens qui faisaient les actions dans la vidéo. Et après, donc, ici, c'est les différents descripteurs. Donc pareil, histogramme de gradient et flow optique pour décrire les trajectoires. Et donc pareil, donc, pour la vidéo, ça a mis plus longtemps pour que les approches deep marchaient. Donc au début, c'était assez difficile parce qu'il y a pas mal de tuning, pas mal d'adaptations, de passer des images à la vidéo. Et notamment, le pas qui était vraiment important, c'est les convolutions en 3D. Donc au lieu de faire... Donc la première approche, c'était two-stream convolution neural networks. Donc ça donnait une toute petite amélioration. Donc je dirais c'est négligeable. Et ce qu'il faisait, c'était une combinaison de appearance stream et temporal stream. Donc pour l'image et pour le flow optique, ils utilisaient des convolutions 2D. Donc c'était vraiment juste utiliser un réseau classique, mais pas appliqué uniquement sur l'image, mais aussi sur le flow optique. Donc ça, bon, ça c'est assez clair. Par contre, donc là, ce qui a permis après de vraiment changer, et c'est en pratique, ça marche vraiment beaucoup mieux, c'est les convolutions en 3D. Donc, elle est, je vais montrer l'idée. Et après, le deuxième point, c'était les données, d'essayer de données beaucoup plus larges. Donc, ces convolutions en 3D, vous avez des paramètres supplémentaires. Donc, c'est encore plus dur à apprendre. Et classiquement, les corpus de vidéos, ils étaient petits. Donc là, c'est le Kinetics Dataset qui est collectionné par Andrew Zimmerman, qui a permis de vraiment apprendre les paramètres de ce réseau de façon meilleure. Et donc ça, c'est un peu la même chose qu'ImageNet pour le deep learning. Donc ça joue un peu le même rôle. Et aujourd'hui, les gens, ils se rendent compte qu'en faisant des mécanismes d'apprentissage plus astucieux, finalement, ils n'ont plus besoin de ça aussi. Finalement, on peut maintenant apprendre si les réseaux sont plus petits, les mécanismes d'apprentissage sont un peu plus tunés, on peut même s'affranchir de ça. Donc ça, c'est le prochain, la prochaine étape. Donc avec une compréhension plus théorique des approches, je pense qu'on peut s'affranchir de ça. Mais pour l'instant, on a encore besoin et c'est ça qui a fait progresser la chose. Et donc tout ça, c'est vraiment très récent. Et donc, quelle est l'idée de ces convolutions 3D? Très simple. Donc là, c'est une convolution 2D. Donc vous regardez votre filtre qui se promène sur l'image. Et là, au lieu de faire ça en 2D, vous avez un filtre qui regarde dans l'espace-temps. Donc c'est un peu comme le gradient en 2D, vous faites juste la dérivée en 2D, et là vous faites la dérivée, les convolutions en 3D. D'accord ? Vous promenez cette convolution en 3D, donc au début c'est un filtre 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc vous la convoluez dans votre volume de vidéo, et ensuite vous avez, comme pour les convolutions 2D, vous avez plusieurs niveaux, vous faites du subsampling, et après vous faites des convolutions qui regardent de plus en plus le contenu, le contexte dans la vidéo. Et donc là, ça c'est une approche que nous, on a regardé un peu... Attendez, faut que j'arrête. On a regardé un peu comment, quel est l'impact du nombre du support temporel. Donc vous pouvez varier le support temporel. Et donc là, ce qu'on montre, si on regarde quels sont les filtres, donc là on regarde différents filtres convolutionnels, et à quoi est-ce qu'ils répondent. Donc là, on peut voir par exemple ce filtre-là. Ça, c'est les premières réponses des différentes classes. Donc, ce filtre-là donne des bonnes réponses pour cette classe-là. Et là, vous pouvez voir à quel endroit de la vidéo ce filtre convolutionnel donne une réponse forte. Donc, c'est une manière de visualiser qu'est-ce qu'on apprend. Et finalement, ce qu'on apprend, on apprend des mouvements caractéristiques, donc là, pour cette action-là. Donc, on peut visualiser que ça fait exactement la même chose que ce qu'on a vu en 2D. Ça apprend ce qui est caractéristique pour la classe, et ça, c'est une manière de visualiser. Et donc là, on compare différentes longueurs temporelles. Donc là, le premier, c'était 100, et là, c'est 16, et on peut voir qu'avec 16, les filtres sont beaucoup moins discriminants. Donc en quelque sorte, avec 100 filtres, aujourd'hui, des gens ont réussi 64, avec 64, c'est une bonne longueur pour vraiment capturer localement ce qui se passe. Donc si c'est trop petit, vous capterez moins bien, c'est un peu la même chose que... Si vous regardez quel est le support spatial en image, et là vous capturez mieux ce qui se passe. Et donc après, donc là c'était donc pareil, les gens ont commencé à faire du 3D, donc après vous pouvez faire, donc ça s'appelle inflated, donc ce que vous faites, vous prenez le même réseau, vous ajoutez juste une dimension pour créer un réseau, au lieu d'avoir un réseau 2D, vous pouvez faire 3D, donc là c'était dans ce papier-là, ils ont utilisé Inception Network de Google, et après plus récemment, les gens font maintenant du 3D sur ResNet. Donc ResNet, c'est de l'architecture avec les skip connections qui marche le mieux aujourd'hui. Et donc ils ont fait la même chose, ils ont ajouté dans cette architecture-là la troisième dimension. Et donc ça, c'est l'état de l'art en 3D convolutions aujourd'hui. Donc pareil, ça peut encore changer. Et donc là, ce que je disais tout à l'heure, donc ça, c'est le Kinetics Dataset qui permet d'améliorer la performance. Donc ça, c'est plus 1000 classes, je pense 6000 vidéos par classe. Et donc, le dernier point, donc c'est la localisation d'action. Donc c'est ce que je trouve le plus intéressant, finalement. C'est un peu comme la détection d'objets. Donc, on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe très précisément dans la vidéo. Et donc, ça, si vous localisez les actions, vous avez une très bonne idée qu'est-ce qui se passe précisément dans la vidéo. Donc, vous savez où dans la vidéo la personne fait quelle action. Vous pouvez même extraire la personne. Et après, même caractériser quelle personne c'est. Et donc, quelles sont les approches classiques ? Donc, les approches classiques, au début, ils regardaient juste qu'est-ce qui se passe dans chaque instance de la vidéo, donc par frame. Donc, je montrerai tout à l'heure comment étendre ça, frame by frame. Et ensuite, il est important de connecter les actions dans la vidéo, donc faire un tracking, ou une association à l'intérieur de la vidéo. Et après, on veut savoir quelle est la limite temporelle pour cette action. Donc, ce que vous faites une classification, vous créez des tubes, donc soit d'abord les tubes, après la classification ou l'inverse, et après, vous voulez savoir exactement à quel endroit l'action, par exemple, si c'est shoot baseball, c'est un des exemples où l'action prend lieu. Et donc, une des premières approches, donc les approches initiales, pareil, c'était basé sur des features pre-CNN. Et donc, là, ce qu'on a fait, c'est utiliser l'architecture de FastRCNN. Donc, FastRCNN, c'est une des méthodes pour la classification d'objets. Et on a fait l'extension sur l'apparence et sur le mouvement. Donc, on a extrait les regions proposals pour l'apparence et pour le mouvement. Ensuite, on a fait la classification des deux, et donc ça, ça a permis d'améliorer la performance. Par contre, donc ça, c'est des approches, ce que je disais pour la classification aussi, au début, les gens sont regardés frame par frame. Par contre, ce qu'on voudrait vraiment, c'est pas juste regarder frame par frame, mais on voudrait regarder qu'est-ce qui se passe dans un voisinage, en fait. Donc là, par exemple, si vous regardez ça, cette personne-là, on ne sait pas si elle s'assoit ou se lève. Donc, ce qu'on voudrait vraiment savoir, qu'est-ce qui se passe dans le voisinage. Donc là, vous pouvez me dire, on a une petite idée parce qu'on a le flow optique, donc on a un peu d'idée de ce qui se passe, mais on a montré, en regardant un peu plus longtemps, aux alentours, qu'est-ce qui se passe, ça améliore la performance. Donc là, soit vous pouvez regarder... Donc là, la première approche qu'on a implémentée, c'est on regarde ce qui se passe dans le voisinage. Après, vous pouvez aussi utiliser, évidemment, des convolutions 3D pour mieux décrire localement ce qui se passe. Donc là, voilà, vous avez soit sit-down, soit stand-up. Et donc, là, la première idée, c'était pareil, au lieu d'avoir juste une tube qui est fixe, on a une tube qui est déformable. Donc c'est un peu la même chose que pour les proposals. Donc, dans l'image pour la détection d'objets, ce qu'on utilise, c'est des region proposals, on les caractérise. Et ici, on a ces tuboid proposals, et au lieu de les avoir fixes, on a un mécanisme pour les adapter dans le temps. Donc, pour pouvoir qu'ils suivent la personne. Donc, vous voyez là, si c'est le truc fixe, à la fin, la personne sort complètement du tuboid. Donc, ce que vous voudrez, c'est que le cuboid, que vous apprenez à ce que le cuboid suive la personne. Et donc là, l'idée de l'approche, c'était on prend un détecteur, donc le détecteur Zero Shot Detector, ce qui est un des détecteurs qui permet d'extraire dans une image à des niveaux multiples les actions ou les personnes. D'accord ? Donc là, vous avez différents niveaux de convolution. À chaque niveau de convolution, vous regardez ce qui se passe. Donc ça vous permet d'avoir une approche multi-échelle, donc à plusieurs échelles, ou pouvoir voir est-ce qu'il y a cet endroit-là, donc de là à cette résolution-là, qui correspond à ce champ de réception, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, pareil, vous avez des convolutions après. Donc là, pareil, vous regardez un champ plus large, est-ce qu'il y a quelque chose qui passe. Et au-dessus de ça, vous avez un classifieur. Donc ça, c'est une architecture existante. Et pour l'étendre à la vidéo, ce qu'on a fait, on a pris plusieurs images dans la vidéo, donc ils se suivent, et on a extrait les mêmes features, donc ça c'est les mêmes réseaux qu'on apprend conjointement, et à la fin, au lieu d'avoir une classification individuelle, on met ces features ensemble, et au lieu de ça, on a quelques layers supplémentaires dans ce qui sont là, qui permet à la fois de prédire le label, et donc le label est prédit pas seulement à partir d'une image, mais un ensemble d'images. Et on apprend aussi la régression, donc la régression qui apprend par frame où se trouve la personne. Donc ça, c'est très similaire à ce que vous faites pour les objets. Vous avez des proposals, vous avez la classification, et après la régression pour améliorer la localisation précise de la boîte. Et ici, au lieu de la localiser juste précisément à un endroit, donc ça vous prédit les coordonnées de la boîte, vous le faites pour tout volume conjointement. Donc vous dites, voilà, là, c'est mes features. Je regarde, en ayant toutes ces informations-là, quelle est la probabilité de classification. C'est assez évident, si vous avez plus d'informations, ça facilite la classification. Mais vous pouvez aussi apprendre une fonction de régression, donc pareil, par quelques fully connected layers, ça vous permet d'apprendre, à partir des informations images, où se trouvent donc, les coordonnées de la boîte, donc où se trouve l'acteur dans la vidéo. Donc ça vous permet de vraiment prédire où précisément est localisé l'acteur de la vidéo. Et l'idée, c'est un offset, d'accord ? Vous avez un volume spatio-temporel et vous apprenez juste le offset, comment bouge l'acteur autour de ça. Et donc ça, ça vous permet de partir de cet anchor cuboid, donc ce qui est le même feature dans le réseau convolutionnel, de améliorer la localisation. Donc une fois que vous commencez par ça, donc ce qu'on a vu avant, vous pouvez corriger la localisation. Donc ça vous apprend pour frame par frame, conjointement, comment améliorer la localisation. Et donc là, bon après, On aime bien toujours bien voir de façon quantitative ce qui se passe, et donc on peut voir que notre approche améliore l'état de l'art, et notamment, il donne des améliorations significatives si on veut que la localisation soit très précise. Donc, ce qu'on mesure en localisation d'objets, c'est le overlap. Donc, overlap, 50%, c'est intersection sur une union, c'est 50% au mieux. D'accord ? Donc là, c'est 50%. Et là, si on regarde pour des overlaps plus grands, on peut voir que l'amélioration, comparée avec un frame-based approach, est vraiment très significative. Et si on regarde maintenant les résultats, donc en vert, c'est la grande touffe, en jaune, c'est la détection. Donc là, dans tous les cas, les labels sont prédits correctement. Et on peut voir aussi que l'acteur est localisé, même dans le cas de mouvement assez significatif, localisé très précisément. Et donc là, ça prédit correctement toutes ces différentes sports. Donc là, c'était high jump, là, c'est skiing. Et donc là, ce qu'on fait, on localise pour un ensemble de frames, on classifie et localise l'acteur. Et après, on a une approche de linking qui met ces détections ensemble pour avoir un track continu de cette personne. Et pour le scoring final, on intègre les scores sur tout ce track-là. Et donc là, quelques failure cases. Donc là, le premier, c'est que de la localisation n'était pas correcte. Et le deuxième, le problème, c'est qu'il y a deux acteurs qui interagissent jointement. Et donc là, il y a une espèce de confusion entre quand est-ce qu'il y a deux acteurs et un acteur. Et donc là, ça montre un peu, il faudra quelque chose en plus si les gens interagissent vraiment très, très précisément. Et donc ici, tout ce qu'on a, une classification acteur par acteur, je vais vous montrer tout à l'heure. Ce qu'on mettra en plus dessus, c'est des modèles graphiques pour vraiment mesurer comment les acteurs ou les personnes interagissent ensemble. Et donc, une des problèmes, c'est les datasets. Donc, bon, comme je disais tout à l'heure, pour la classification, il y a le problème. Comment avoir un dataset qui est assez grand? Et pour la localisation, c'est encore plus difficile parce que finalement, si vous créez des données, il faut vraiment annoter des personnes frame par frame. Et donc, ce qui existait, c'est vraiment des datasets qui sont très, très petits. Donc là, 10 actions, 100 vidéos, 21 actions, 1000 vidéos. Donc, vous voyez bien, c'est pas suffisant pour apprendre des réseaux et mesurer vraiment quelque chose de significatif. Donc là, c'était le plus grand dataset. Donc là, il y avait 3000 vidéos. Et donc là, récemment, ce qu'on a fait, on a mis en place un dataset. Bon, ça, c'est pas vraiment un travail scientifique, mais c'est quelque chose qui est très, très utile, notamment dans le contexte des réseaux neuronaux. Et quelle est la contribution scientifique, finalement, quand on fait un tel dataset? C'est de réfléchir quels sont les labels, donc qu'est-ce qu'on veut faire, et sur quelles données on veut annoter, et comment. Et donc finalement, je me suis rendu compte, c'est vraiment pas trivial, puisque le problème est tellement complexe, comme je disais au début, pour les actions, que déjà pour définir le vocabulaire, on peut discuter pendant 2 heures, et après, pour le protocole d'annotation, c'est pas non plus clair, il faut donner des instructions très claires, sinon les gens, enfin bon, c'est pas nous qui ont annoté, on a donné ça à des gens qui ont annoté pour nous, c'est vraiment important de leur dire précisément ce qu'on veut. Et donc, quelle est l'approche qu'on a pris ici? On s'est dit, les actions, c'est vraiment une espèce de hiérarchie. Donc, on a des actions de base, et après, les activités, c'est une composition des annotations de base. Et donc, ce qu'on a essayé d'annoter, c'est ces actions de base. Et donc là, on a mis 3 catégories en place. La pause, l'interaction avec les objets, les interactions human-human. Donc, c'était par exemple l'exemple de la danse qu'on a vu tout à l'heure. Et après, quelque chose qui est aussi très important dans le contexte d'une action. En général, il n'y a pas une seule action, mais il y a plusieurs actions par personne. Par exemple, là, vous écoutez la présentation, vous êtes assis, et puis en même temps, vous regardez vos mails sur votre laptop. Bon, vous ne le faites pas, mais bon, c'est... Et donc, ça fait 3 actions, 3 labels, et donc ça, c'est très, très commun. Donc, finalement, on se trouve aussi à un problème qui n'est pas trop exploré. Comment prédire plusieurs labels à la fois? Et donc là, quelques exemples des actions qu'on a. Ici, quelques exemple, donc là, answering phone, clinking glass, hug person, Et donc là, ici, on voit qu'on a plusieurs labels à chaque fois. Donc là, sit, talk to, etc. Donc, ce que je disais tout à l'heure. Et après, pour les annotations, on a choisi à noter toujours le keyframe en une seconde. Donc on regardait le contexte et à noter le milieu avec le label d'action. Et donc là, ce qui a été à noter, c'est pour 200 vidéos, des intervalles de 15 minutes. Et donc ça fait à la fin un assez grand dataset avec pas mal de labels. Et donc ce qui est intéressant de voir qu'est-ce qui peut quelles sont les co-occurrences dans ce dataset. Donc par exemple, watch et fight, dance et sit, c'est des choses qui n'apparaissent jamais ensemble. Par contre, dig and shovel, climb and crawl, c'est des choses qui apparaissent ensemble. Donc ça montre bien que finalement, en ayant un tel dataset, ça permet vraiment de voir comment les choses apparaissent ensemble aussi, et aussi comment ils suivent dans le temps. Donc on peut quand même dire que finalement, on peut regarder, il y a des corrélations temporelles qui vont apparaître, et finalement c'est ça qu'on voudra, c'est à terme pas juste regarder à des actions ponctuelles, mais voir comment ça se suit dans le temps et apprendre ces séquences dans le temps pour caractériser des activités plus à long terme. Et donc là, juste une expérience initiale qu'on a faite sur ce dataset. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est une extension de l'approche que j'ai montrée tout à l'heure en intégrant des convolutions 3D. Donc on prédit la position et après, on utilise des convolutions 3D sur l'apparence et sur le flow pour classifier localement ou sur une fenêtre temporelle l'action. Et donc là, ce qu'on peut voir, donc là, c'est des datasets standards. Donc on a des performances assez élevées. Ce qu'on peut voir ici, sur ce nouveau dataset, finalement, on n'arrive pas encore à avoir des performances très significatives. Et donc, pourquoi est-ce que c'est aussi bas? Donc, évidemment, on n'a pas la réponse complète, sinon on aura des résultats meilleurs. Mais quelques pistes d'exploration, c'est qu'on n'utilise pas assez le contexte et l'interaction entre les personnes et les objets. La deuxième piste, qu'on n'a probablement toujours pas assez de données d'apprentissage, donc on a des classes pour lesquelles on n'a pas assez de données, mais donc notamment c'est quelque chose qu'on est en train de regarder, donc on a ce problème de long tail distribution, donc si vous collectionnez des données sans vraiment renforcer la collection, mais juste en sampling la vidéo, vous avez des actions qui n'apparaissent pas très souvent. Donc finalement, donc quelle est l'idée là? Donc l'idée brutale, c'est de collectionner plus de données, mais une idée plus sophistiquée, c'est regarder les approches de future learning. Donc ce qu'ils font les gens aujourd'hui, c'est qu'ils essayent de faire du transfert de classes pour lesquelles vous avez beaucoup de données à des classes où vous n'avez pas beaucoup de données, en mesurant, en construisant des embeddings qui se translatent d'une classe à l'autre. Et ça, c'est des travaux de recherche, mais ça permet après de vraiment voir si on peut améliorer la performance. Et donc, une première failure mode, c'était ce que je disais. Finalement, on ne regarde pas assez le contexte. Donc, pour l'instant, on a ces filtres 3D, mais même ces filtres 3D, ils restent assez locaux. Donc, ils sont basés. Enfin, si vous regardez, c'est une frame, et autour de cette frame, vous avez, disons, 50 frames autour. Donc, ça capture localement très bien ce qui se passe. Donc, c'est beaucoup mieux d'utiliser une frame seule, mais ça ne capture pas vraiment le contexte temporel. Donc, ce qui manque là, c'est d'extraire. Donc, je vais montrer deux choses. Donc, la première, c'est comment regarder les relations spatiales. Et la deuxième, comment on peut construire des toolbits autour pour vraiment mesurer de façon plus précisément ce qui se passe dans l'environnement. Et donc là, vous voyez plusieurs cas de failure modes. Donc là, handshake, et donc il ne se coupe pas la main, mais il reach out arm. Donc là, on pense que la personne est en train de fumer, mais finalement, tout ce qu'il fait, il a la main devant la bouche. Et donc là, c'est classifié comme écrire. Et ce qu'il fait, c'est manger et looking downwards. Donc finalement, pourquoi écrire? Parce que la main fait probablement ça et c'est confusionné avec manger. Et donc là, l'idée, c'est d'aller plus loin et de regarder vraiment qu'est-ce qui se passe dans le voisinage. Donc si vous voyez ce qui se passe juste en regardant la fenêtre autour de l'humain, c'est pas tout à fait vrai parce que les convolutions, ça déborde toujours un peu de tous les côtés. Mais si vous regardez vraiment le centre sur lequel vous extrayez la formation, vous voyez bien que là, vous ne voyez pas la balle. ou si vous mangez, vous ne voyez pas l'assiette, ou c'est juste à la fin et ce n'est pas vraiment pris en compte. Et donc, ce qu'on voudrait faire, c'est regarder aussi les relations qui forment, qui l'acteur forme avec l'environnement. Donc là, l'approche développée, elle localise de façon weakly supervised les objets et en espace et en temps qui sont importants pour l'action. Donc ici, donc on a catchball, la throwball, et donc du coup, ça c'est ce qui a trouvé le réseau, il a appris, donc la personne est détectée évidemment, mais après le réseau apprend quels sont les objets qui sont importants pour l'action. Et donc là, l'architecture, donc ça c'était les descripteurs 3D, et donc là ce qui est nouveau, c'est les relational features, donc on veut avoir des features dans le voisinage qui sont importants pour l'action. Et donc une approche évidemment, c'est d'annoter tous les objets qui sont importants pour cette action, mais ça c'est beaucoup trop lourd, on ne peut pas aller, en plus de labelliser la personne, annoter aussi les objets. Bon, on a pensé, mais finalement, si on fait le coup, ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, finalement, c'est aussi plus élégant de faire ça de façon weakly supervised. Donc, on donne plein de boîtes, donc soit des reaching proposals, soit juste des fenêtres spatio-temporelles au réseau. Et de façon weakly supervised, donc par inférence, ils décident qu'est-ce qui est important pour cette classe d'objets. Et donc, comment est-ce qu'ils décident ça? Donc là, ce qu'on est basé, on se base sur un relational network. Donc ce que ça fait, ce relational network, ça prend toutes les relations entre les paires de régions. Donc le truc original prend toutes les relations entre les paires de régions dans l'image et qui mesure. Donc il y a une mesure qui mesure la corrélation et la force de relation pour cette classe, pour ces régions. Et à la fin, donc il a le score, donc on a le score pour cette action ou pour la classe, il backpropage et donc ça renforce les relations qui sont significatives pour la classe. Et donc ici, la modification qu'on a faite, donc là, c'est, on a l'acteur qui est central pour l'action, et autour de l'acteur, on a des context features dans toute l'image à plusieurs résolutions, donc c'est des CNN, c'est des petites CNN, qu'on utilise pour mesurer la corrélation avec l'acteur. Donc ça, c'est le relational network qui regarde la relation entre l'acteur et les object features. Donc ça, c'est les actor features et les object features. Il les somme, donc il fait la somme. Il a une fonction de transformation et après, il apprend par backpropagation cette fonction de corrélation et donc renforce, est-ce que c'est plus ou moins fort, la corrélation entre ces features. Donc là, quelques détails, je vais skipper. Et donc là, ce qu'on peut voir, donc après, avec ça, on peut vraiment apprendre de façon automatique quels sont les objets qui sont relevant pour la classe. Donc là, ça, c'était pour Youssef Sports, et là, c'est pour Eva. Donc on peut voir, par exemple, là, listen, et la personne, l'autre personne qui écoute, qui est important, ou la sit, on peut voir, c'est le canapé qui est détecté. Et donc là, quelques résultats numériques, donc on peut voir que ça permet d'améliorer la performance, donc sur deux différents datasets, donc là sur le nouveau EVA dataset, et là sur JTBD, donc avec une première approche, on arrive effectivement à améliorer la performance. Et deuxième, donc on a aussi regardé, ce que je disais, deuxième approche, on a regardé les tubelets, donc au lieu de juste regarder le relation graphs, on a ajouté en plus en module où on mesure comment l'action se comporte dans le temps. Donc finalement, ça, c'est très important, parce que dans beaucoup de cas, l'action, ce n'est pas juste un instant. Par exemple, si vous essayez, c'est vraiment une action où quelqu'un, d'abord, il s'approche de la chaise et après, il s'assoit. Donc finalement, ce qu'on voudrait faire ou ce qu'on a fait, on a regardé comment ça se comporte et on a traqué à la personne. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Cet algorithme de tracking, ça existe. Mais après, on a mis un graph convolution network de ça. Donc, les graph convolution networks, ce que ça apprend, c'est un graphe, c'est comme un graphe, et ça apprend les poids de ce graphe pour cette action. Donc, ça regarde comment ça se comporte de façon temporelle, qu'est-ce qui est important pour classifier l'action sit-down en regardant un peu les nœuds dans le graphe aux alentours, et ça peut dire, voilà, là, le fait que ça s'approche de la chaise, ça donne un poids fort, Et donc ça, c'est des mécanismes qui sont récents, qui permettent, finalement, c'est plus des convolutional networks, c'est des choses qui sont au-dessus de ça, qui permettent de modéliser. C'est comme des graphes, mais après, c'est appris, en fait, à partir des données. Et donc, là, donc, enfin, après, pour faire des tubelets, donc pareil, ce qui marche bien aujourd'hui, c'est d'utiliser des Cygnus Networks. Donc, ce qu'on fait, au Cygnus Network, on donne deux fenêtres, donc acteurs dans l'image 1 et 2. On donne comme input et on mesure est-ce qu'ils se ressemblent, est-ce qu'ils ne se ressemblent pas. Et donc, on les apprend avec la triplet loss. Donc, on donne des paires qui se ressemblent, des paires négatives qui ne se ressemblent pas. Et ça permet une bonne manière de construire des similarités. Donc pareil, ça marche mieux que si on a des approches classiques avec les points d'intérêt où on mesure juste est-ce que les points d'intérêt se ressemblent ou ne ressemblent pas. Et donc après, donc ce qui est important, c'est apprendre la relation entre les différents éléments donc dans ce tublet. Donc chaque acteur est un nœud dans le tublet. Pour chaque acteur, on extrait des features. Donc ici, c'est des features 3D, donc ça mesure un peu plus loin que juste par frame. Et on les combine par ces graph convolutions et ça permet d'apprendre quels sont les poids importants et ça permet de vraiment voir comment l'action se comporte dans le temps. Et après, en plus, on a ajouté, donc pareil, les relations et ici, ce qui change par rapport à l'approche avant, on a extrait, je ne sais pas si j'ai un exemple, oui, on a extrait pas des patchs, mais ici, on utilise des region proposals. Donc, ce qu'on utilise aujourd'hui souvent, au lieu de dire on veut des features un peu partout dans l'image, on utilise quelques proposals. Donc les region proposals, c'est des CNN proposals qui sont appris à partir de la détection d'objets. Donc vous avez par exemple le Coco dataset, vous apprenez la détection et les algorithmes de détection aujourd'hui sont toujours une approche où il extrait un certain nombre de régions caractéristiques et après les classifie. Et quel est l'avantage finalement de ces proposals? C'est réduire la complexité. Donc c'est très simple. Vous pouvez faire la même chose en prenant toutes les fenêtres dans votre image. Donc vous aurez, je sais pas, plein de résolutions, plein de fenêtres, ça fait un nombre énorme. Et donc là, ce que vous faites, vous apprenez des régions, c'est une espèce de détecteur qui vous prédit cette région et est vraisemblable de contenir un objet. D'accord, donc ça, c'est les region proposals, ce qu'on a ajouté là en plus. Et donc là, donc là, ce qu'on peut voir ici, donc la baseline, c'est juste utiliser des 3D convolutions pour classifier ce qui se passe dans la frame. Et ici, on ajoute le tubelet model. Donc on regarde dans un voisinage où est l'acteur. Donc on traque l'acteur sur je sais pas, je pense 10 secondes. Et ensuite, on intègre l'information. On peut voir que là, on a une bonne improvement de 5%. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, en ajoutant les relations, pour l'instant, on arrive à avoir 1% en plus. Donc finalement, mesurant le extent temporel, ça donne des améliorations plus significatives. Et donc là, c'est quelques autres baselines avec lesquelles on a comparé. Et donc là, deux illustrations qui sont assez jolies, je trouve. Donc là, le label, c'est sit down. Donc finalement, si on regarde juste le middle frame de cette action, c'est un peu, on a l'impression qu'elle va s'asseoir, la fille. Et si on a notre approche où on intègre toute l'information sur toute la séquence, on détecte bien qu'à la fin, elle va tomber. D'accord? Donc là, vraiment, la différence, c'est dans un cas, on a juste regardé localement ce qui se passe et après, on a fait l'average pooling. Évidemment, l'average pooling, c'est pas assez bien parce que finalement, ça mélange juste l'information. Et ici, on apprend qu'est-ce qui est important pour cette action-là et on a une manière plus sophistiquée pour intégrer l'information. Et un deuxième exemple, là, c'est pour relation modeling. Donc là, ça, c'est la baseline où on a hold. D'accord? Donc finalement, on dit la main tient quelque chose, c'est ce qui est vrai. Mais si on utilise en plus ce qui se passe aux alentours, on sait que la personne est en train de manger parce qu'on détecte qu'il y a des objets. Donc là, on montre là, c'est la fourchette qui est le plus grand score. Donc ça montre en plus quels sont les scores que le relational graph a pris. Donc là, on peut voir que la fourchette a le score le plus élevé et après aussi le vert. Donc, on voit bien qu'on apprend. C'est juste pas juste qu'on contient quelque chose, mais aussi on sait que c'est une fourchette, et donc ça permet de dire qu'on mange. Donc là, c'était le premier exemple de fall down. Là, un autre exemple, Donc ça, c'est le HEAT dans le temps. Donc on voit la baseline se hold. Et donc notre approche classifie correctement comme HEAT. Donc là, la baseline apprend juste watch. Et là, nous, on apprend que c'est fight, en fait. Donc très, très, très brièvement, donc là, donc après ce que je disais, maintenant, ce qu'on voudrait en plus d'aller vers la prédiction, de dire, maintenant, on connaît ces relations de contexte et ces graphes. On ne veut pas juste dire qu'est-ce qui fait la personne, mais qu'est-ce qui va faire la personne. Et ça, finalement, ce qui est important là, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, les objets dans le voisinage. Donc ça, ça permet de prédire. Et donc là, je pense que ce qui est bien ici, donc, enfin, voilà, donc ça, c'est, ils sont là, donc là, on va bien. Qu'est-ce qu'ils indiquent qu'ils vont faire clinking class? C'est le fait qu'il y a des verres ici. Donc pareil, serving, qu'il y a des objets ici. Donc ici, bon... Hugging and standing, ça peut être assez naturel que les gens, après, ils vont s'embrasser. Et donc là, très rapidement, donc le modèle, ce qu'il fait, il ne prend pas juste en temps, en relation, les objets du voisinage, mais en plus, il y a les récurrences. Donc, il apprend par des modèles de récurrence, par des GRU, qu'est-ce qui se passe dans le temps. Donc, il peut vraiment faire, à partir d'une séquence, il peut vraiment prédire pour des steps, future steps, qu'est-ce qui va se passer. Donc là, enfin, les résultats, donc ça marche mieux que juste des baselines qui prédisent ça à part des deux frames. Et donc là, je pense que la dernière partie, je vais skipper. Donc ça, c'était deux choses. Après, maintenant, on a juste opéré sur des choses qui sont annotées. Maintenant, on voudrait étendre ça aussi à des weekly supervised. Donc vraiment apprendre juste avec quelques labels de haut niveau, savoir pas seulement quels sont les objets, mais quelles sont les actions. Et donc pareil, pourquoi ça commence à bien marcher aujourd'hui? Parce qu'on a des tracts d'humains qui sont très fiables. Donc avant, on avait fait ça il y a 10 ans, et tout ce qui est human tracking et description, ça ne marchait pas du tout. Donc les features étaient faibles, et les tracks étaient très erronés, et donc finalement, on n'arrivait pas à prendre. Maintenant, on se rend compte, un peu comme pour le weekly supervised dans les images, si on a des tracks et des features qui sont fiables, on arrive vraiment à prendre de façon semi-supervisée des classes d'objets. Donc là, on peut voir, de façon semi-supervisée, on reprend bien. Et donc voilà, en conclusion, on a vu... Tout ce qui est dataset, ça prend. C'est devenu très très important pour tout ce qui est deep learning. En fait, c'était moins important avant, mais aujourd'hui, c'est important vraiment pour l'apprentissage. Et donc, ce qu'on regarde nous aujourd'hui, c'est les données synthétiques. Parce que finalement, l'annotation, moi, j'aime pas. C'est quelque chose d'assez fastidieux. Donc, ce qu'on regarde, c'est des données synthétiques. Et donc, on a montré qu'avec des données synthétiques, on peut aller très loin. Et la deuxième chose, c'est le weak supervision. Donc de dire, on a quelques labels, par exemple, on prend des vidéos de YouTube, on a quelques labels, on voudrait vraiment utiliser ça pour apprendre des concepts sans annoter. Et en quelque sorte, ça va aussi plus loin, parce que si vous commencez à noter, c'est toujours vous, l'annotateur, qui décide ce qui devrait être présent. Donc vous ne pouvez jamais vraiment explorer ce qui est. Et donc après, on a vu que des nouveaux modèles qui prennent en compte les relations spatiales et temporelles sont très importants. Donc ça, on a, le Weak Supervision, on n'en a pas vu. Et après, donc, ce que je disais, c'est très important. La détection d'objets et des humains, et donc avoir des meilleures méthodes pour la détection d'humains et de tracking, ça pourrait toujours améliorer les performances. Donc après, ce qu'on a regardé récemment, c'est l'intégration avec d'autres modalités, donc soit pour le VXD Supervised, donc le texte et le son, ça peut aider comme signal supplémentaire, ou alors de faire directement l'intégration, apprendre directement les modèles. On parle juste prenant la vidéo, mais la vidéo et l'audio et le texte comme input et utilisant ça pour apprendre les features conjointement. Donc ça, c'était travaux en cours. Merci.